Louange et remerciement au Seigneur de ce que sa parole nous submerge, de ce que sa grâce nous saisit et de ce que son esprit nous guide, nous conduit dans toute la vérité. La parole que nous avons lue en introduction m'a touché au cœur. Et si nous considérons le contexte à l'époque, cela a eu lieu à l'époque où Dieu s'est révélé à son peuple de l'Alliance. Et c'était dans ce temps où de grandes puissantes choses se sont produites lors de l'Exode et aussi lors de l'entrée dans le pays. Ici, deux questions sont posées ou deux choses sont dites. Psaume 114, verset 5. Qu'était-ce pour toi, mer, pour que tu t'enfuis, et pour toi, Jourdain, pour que tu reviennes en arrière? Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la mer s'est fendue. Car Dieu avait un projet particulier avec son peuple. Et je l'ai souvent dit, s'il n'y a pas de chemin que toi et moi, nous puissions emprunter en tant que peuple de Dieu, s'il n'y en a pas, Dieu en tracera un. Il le fera. Et s'il faut passer au milieu de la mer, qu'est-ce que la mer avait? Pourquoi t'es-tu reculé? Pourquoi t'es-tu divisé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et pourquoi? Psaume 114, verset 5, c'est simplement pour frayer le passage au peuple de Dieu, pour traverser, pour emprunter le chemin qui menait à la terre promise. Et dans le même verset, la fin de la marche du peuple d'Israël est placée devant nos yeux après les 40 ans. Et il est dit, pour toi, Jourdain, que tu tournais le dos. Psaume 115, la deuxième partie du verset 5. Ne l'oublions pas, lors de l'Exode et lors de l'entrée dans le pays, des choses similaires se sont produites. Ce que Dieu a fait au commencement, il le fait aussi à la fin. De même qu'il a fait sortir l'Église du Nouveau Testament à main forte, de même, il la fera entrer à bras levés et nous verrons sa gloire. Comment ça se fait que les montagnes bondissaient comme des béliers et les collines comme des agneaux? Le verset 4 du psaume 114, je n'ai pas encore vu les montagnes bondir ni les collines bondir. Mais avec Dieu, toutes choses sont possibles lorsqu'il se révèle à son peuple. Il se passe quelque chose autour de nous. Tout l'entourage s'en aperçoit et qu'il fasse grâce pour que cela soit bientôt le cas. La réponse est la suivante au verset 7. C'était plutôt le verset 6 tout à l'heure. Ensuite, la réponse au verset 7. À la vue du Seigneur, tremble. Toi, terre, à la vue du Dieu de Jacob. Une chose merveilleuse. Non pas devant le peuple d'Israël, mais devant le Dieu du peuple d'Israël. Non pas à cause de toi, ni à cause de moi, mais à cause du Seigneur qui nous a rachetés, toi et moi, et qui nous a appelé par notre nom. C'est à cause de lui qu'il fait toutes ces grandes choses, même dans ce temps. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais nous montrer aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, que ce n'est pas une chose facile et que ce n'est pas quelque chose de bon marché que nous avons reçu, mais la révélation de la volonté et de la parole de Dieu en ces derniers temps. Nous savons que beaucoup de gens prêchent sur la parole de Dieu. Ils lisent les évangiles, les épîtres, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ils enseignent le peuple, chacun à sa manière. Mais Dieu dit, vous serez tous enseignés de Dieu, par Dieu, du plus petit au plus grand. Et vous n'aurez plus besoin de vous enseigner les uns les autres. Nous nous trouvons dans un temps d'instruction divine, dans un temps d'enseignement divin, et tout cela dans un but très précis, dans un but grand et glorieux, c'est-à-dire l'achèvement de l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais lire quelques passages bibliques comme dans une étude biblique, afin que nous puissions avoir un aperçu de la parole de Dieu, une vue d'ensemble sur la parole de Dieu. Car ce que les hommes disent de la parole de Dieu ne suffit pas. Dieu lui-même doit nous parler par sa parole. Tout d'abord, la parole qui m'a marqué au cours de ce voyage, tirée de Matthieu, le chapitre 13, je voudrais lire ici le verset 51. Matthieu, chapitre 13, du verset 51. Avez-vous compris tout cela? Et lui répondirent oui. Alors il leur dit, c'est pourquoi tout scribe formé à l'école du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il est ici question de l'école du royaume des cieux. Les dénominations terrestres ont toutes leurs écoles. Elles ont leurs séminaires, elles ont leurs enseignants, elles ont les livres dans lesquels elles enseignent, elles ont des commentaires auxquels elles se réfèrent. Il existe dans toutes les confessions, dans toutes les communautés religieuses, dans toutes les communautés religieuses libres, des formations, des congrès, des introductions à ce que croit et enseigne la communauté ou la communauté religieuse en question. Et beaucoup d'entre eux, s'ils veulent vraiment exercer un jour leur fonction, doivent sacrifier de nombreuses années et étudier pour pouvoir un jour enseigner les gens. Ce sont des institutions humaines. Et nous pensons ici au grand homme de Dieu, Paul, qui a suivi une telle formation, qui a fréquenté un tel séminaire au pied d'un grand maître. Et à la fin de son enseignement, il ne savait rien de ce que Dieu faisait autrefois de son temps, parce qu'il n'avait pas accès à la prophétie principes bibliques et à l'enseignement divin. Il est déjà dit dans les Proverbes que là où il n'y a pas de révélation divine, le peuple s'égare. Proverbe 29, verset 18. Mais comment vient la révélation divine? Pas dans l'école humaine. C'est là que vient la révélation humaine et nous pouvons nous en passer. Ce dont nous avons besoin, c'est de la révélation divine. Et ce qui est beau, c'est qu'à l'école du royaume des cieux, on ne forme pas seulement une certaine élite, seulement quelques-uns qui occuperont plus tard une fonction. À l'école du royaume des cieux, tous, petits et grands, sont assis ensemble aux pieds de Jésus-Christ et écoutent ces paroles qui leur sont révélées par le Saint-Esprit. Et alors, en peu de temps, vous en savez plus que tous ceux qui ont fréquenté une école pendant des années. Il est dit ici, littéralement, Matthieu 13, verset 52. C'est pourquoi tout scribe formé à l'école du royaume des cieux. Tout le monde veut avoir une formation. Et beaucoup de ceux qui ont bénéficié d'une formation ont ensuite acquis l'imagination par-dessus le marché. Donc l'imagination d'être quelque chose par-dessus le marché. Mais il s'agit ici de bien plus que cela. Il s'agit de l'école du royaume des cieux, l'enseignement divin, l'initiation à la volonté et au plan du Dieu Tout-Puissant. Et c'est là que nous arrivons immédiatement à la parole de l'Ancien Testament que nous connaissons tous très bien du prophète Amos. Il nous est dit ici que Dieu ne fait rien si ce n'est qu'il révèle son dessein tout d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, versets 6, 7 et 8. La trompette sonnera-t-elle dans une ville sans que les gens soient effrayés? Un malheur survient-il dans une ville sans que le Seigneur Dieu en soit la cause? Non. Dieu le Seigneur ne fait rien sans avoir d'abord révélé son dessein à ses serviteurs, les prophètes. Le verset 8, le lion a rugi. Qui ne craindrait pas? Dieu le Seigneur a parlé. Qui ne parlerait pas comme un prophète? Nous entrons ici directement dans le vif même du sujet. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu le Seigneur lui-même qui a parlé et ce par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes, pour établir à l'avance son plan de salut et tout se déroule selon ce plan de Dieu. Et je l'ai déjà dit ces jours-ci, si l'un d'entre nous demandait, Seigneur, tout devient si cher, dirige le cœur des responsables gouvernementaux pour que les choses deviennent moins chères, dirige les hommes d'État pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour qu'ils soient raisonnables, et ainsi de suite. Ce n'est pas possible, car la Bible prédit ces choses. Des guerres, des cris de guerre, des famines, des temps coûteux, tout ce qui a été prédit dans la parole de Dieu doit s'accomplir et nous ne pouvons pas prier contre la volonté de Dieu. Nous devons prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Allons à Marc, le premier chapitre, les premiers versets. Marc, chapitre 1, à partir du verset 1. Le message de salut de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a le début suivant. Comme il est écrit dans le prophète Ésaïe, voici que j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Verset 3. Et une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Je voudrais ici mettre l'accent sur l'expression que l'évangile de Jésus-Christ a eu son commencement tel que cela était écrit dans le prophète Ésaïe au chapitre 40 et tel que c'était écrit dans Malachie 3, dans le premier verset. Pas comme les scribes le pensaient, pas comme ils l'attendaient, mais comme le Seigneur l'a annoncé par la bouche de ses prophètes. Permettez-moi de dire directement à cet endroit que l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et l'achèvement de l'Église du Seigneur prendront leur début. Et non seulement cela, mais leur fin, comme c'est écrit dans les prophètes, comme c'est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Pas comme les hommes le pensent. Ils auraient certainement pensé à recevoir le Seigneur en tant que grande dénomination et à l'avoir ensuite au milieu d'eux. Mais Dieu avait fait dire par le prophète Ésaïe 40, verset 3, « Écoutez un cri retentit dans le désert, frayez un chemin au Seigneur dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. » Non pas comme les hommes l'enseignent, comme ils l'attendent, mais comme Dieu l'a dit dans sa parole. C'est le fondement sur lequel les hommes de Dieu se sont tenus au début de la Nouvelle Alliance, alors qu'aucune ligne du Nouveau Testament n'était encore écrite. Ces hommes étaient sous l'inspiration directe du Saint-Esprit et reconnaissaient en tout l'accomplissement de la prophétie biblique. Et ce que Dieu fait est très différent de ce que les hommes attendent. Jean était tout seul, mais il n'était pas seul, car il est écrit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Jean 1, verset 33. Ici, il y avait la connexion avec la parole prophétique. Et ensuite, venait l'action prophétique qui suivait les paroles prophétiques. Et je voudrais qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous comprenions vraiment cela une fois pour toutes. Dieu n'a pas envoyé frère Branham pour faire quelque chose de nouveau. Il l'a envoyé pour nous ramener à l'ancienne parole de Dieu, à la parole prophétique pour nous donner une vie dans une vue d'ensemble. C'est une autre parole qui est devenue encore plus grande pour moi dans l'épître de Jean, au premier chapitre du verset 1. 1 Jean 1, verset 1. Ce qui était là dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la parole de vie. Verset 2. Et c'est ce que nous vous annonçons. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous témoignons. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il nous est clairement dit ici que ce qui était en Dieu le Père a été manifesté en Jésus-Christ pour nous. En lui, nous avons la vie. Et il est dit ici ce que nous avons vu et entendu de la parole de vie. Maintenant, s'il vous plaît, soyez attentifs. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu de parole. Je l'ai seulement entendu. Une parole qui est prononcée est d'abord invisible. Mais ici, il est dit ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu de la parole de vie, c'est ce que nous vous annonçons. C'est ce que nous vous annonçons. La chose est très simple. La parole a pris forme et n'est pas restée un simple mot assemblé et formulé par des lettres, n'est pas restée une parole assemblée et formulée par des hommes, par des lettres, pardon, mais la parole s'est incarnée, est devenue, s'est faite chair. En d'autres termes, les promesses que Dieu a faites dans sa parole sont ainsi devenues réalité. Christ est la parole faite chair. Mais c'est aussi à travers l'Église que chaque parole maintenant, chaque parole prononcée doit se manifester de manière visible. Permettez-moi de l'expliquer très brièvement. Lorsque nous annonçons l'évangile du salut de l'âme, il ne faut pas se contenter de l'annoncer. Il faut que l'âme qui entend la parole du salut, que ce salut soit produit en elle. Il ne faut pas se contenter des paroles. Il faut voir les effets visibles de la parole que l'on a entendue avec les oreilles et le cœur et que l'on a reçue avec foi. Lorsque Dieu le Seigneur a dit que la lumière soit, ce n'était pas des paroles seulement sur le moment. C'était pas que des mots, mais l'instant d'après, ces paroles se sont tout de suite transformées en élément direct de ce qui était exprimé par ces paroles. C'est de cela dont nous parlons et c'est le ministère vers lequel nous nous dirigeons. Pas seulement des paroles qui résonnent dans l'espace, dont nous nous souviendrons peut-être au mieux une fois de plus, mais des paroles qui ne reviennent pas à vide, sans effet, mais qui accomplissent ce pourquoi Dieu les a envoyées. Et je suis convaincu que si nous comprenons le message prophétique qui est un défi lancé à cette génération, un appel aux croyants à sortir qui font partie de l'église épouse et qui d'autre part est mal compris par les gens parce qu'ils pensent que nous sommes si stupides et que nous suivons un homme. Qui a suivi Jean? Personne. Les gens n'y allaient que pour entendre le message de Dieu de la bouche de ce prophète. Car en sa personne s'accomplissait Ésaïe chapitre 40 verset 3. Dans son ministère, Malachi 3 verset 1 s'est accompli. Et à partir du moment où par l'intermédiaire d'un homme, la parole de Dieu s'accomplit et que la prophétie prend forme et se présente visiblement à nos yeux, nous n'avons plus affaire à un homme appelé tel et tel, mais nous avons affaire à Dieu, au Dieu vivant lui-même, qui fait en sorte que sa parole s'accomplisse de cette manière. Qui était Moïse? Moïse était l'homme que Dieu utilisait pour accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et nous voyons qu'il dut lui-même fuir, qu'il dut attendre 40 ans, mais que soudain, lorsque le temps et l'heure de Dieu eurent sonné, c'est là. Oui, que frère Branham l'explique si bien que le vieux Moïse, non pas à l'âge de 40 ans, dans toute sa force d'homme, mais à l'âge de 80 ans, descendu soudain en Égypte, son bâton à la main. Et si quelqu'un lui avait demandé, Moïse, qu'as-tu en tête? Il aurait certainement pu répondre. Chers amis, je n'ai absolument rien en tête, mais celui qui m'a parlé, le je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui m'envoie et il a quelque chose de grand comme projet et je veux être là quand cela arrivera. Qu'y avait-il là? Le même Moïse. Mais l'heure de Dieu avait sonné. Tout à coup, Dieu est intervenu. Et ce n'était plus le savoir et les capacités d'un homme. Mais Dieu le Seigneur avait répondu, j'ai vu la détresse de mon peuple. Et leur cri de détresse est venu devant moi. C'est pourquoi je t'envoie pour les faire sortir. Je vous le demande aujourd'hui. Qui a fait sortir le peuple d'Israël? Dieu ou Moïse? Dieu sous la direction de Moïse, car il faut toujours qu'il y ait un homme en qui la parole puisse prendre forme et se réaliser. Et frère Branham dit aussi, nous sommes devenus une partie de la parole. Nous ne sommes pas en dehors, nous ne sommes pas à côté, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais si nous regardons le passé, personne n'a de peine. Au contraire, on trouve suffisamment de gens qui décorent les tombes des prophètes, qui prêchent à leur sujet, etc. Mais si nous parlons de l'époque actuelle, il en va tout autrement. Et je peux vraiment me permettre de porter un jugement en toute humilité. J'ai rencontré suffisamment, je voudrais le dire, d'hommes de Dieu qui sont connus dans le monde entier. Et ils ont tous dit unanimement, et peut-être le disent-ils encore aujourd'hui, nous savons et croyons que frère Branham a eu le plus grand ministère depuis les jours de Jésus-Christ. Et que Dieu n'a été avec aucun homme comme il a été avec lui. Là, vous pouvez parler, aujourd'hui, je veux éviter de mentionner des noms, mais avec les plus grandes personnalités dans les rangs du plein évangile. Mais au moment où frère Branham a quitté la partie évangéliste, la prière pour les malades, tout est resté, l'évangélisation est restée, la prière pour les malades, tout cela est resté, mais est passé à la phase suivante, à savoir la partie de l'enseignement. Et déjà, beaucoup sont revenus en arrière, pardon, et n'ont plus suivi. Et quand il est vraiment sorti avec la parole prophétique très clairement, et a dit, Malachie chapitre 4, les versets 4 et 5 doivent s'accomplir, et quand il a dit comme Jean, et j'espère que vous le comprenez, Jean a donné un auto-témoignage, je voudrais vous le lire, tiré de l'évangile de Jean, et plus précisément du premier chapitre, car il est bien écrit, nul ne rend témoignage pour lui-même. Personne ne parle pour lui-même. Ne rend témoignage à lui-même. Personne ne parle pour lui-même. Il vaut mieux que Dieu ou d'autres parlent pour lui. Mais c'est écrit ici, Évangile selon Jean, chapitre 1, du verset 19. Verset 19. Voici donc le témoignage de Jean lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander qui il était. Verset 20. Il fit alors une confession, sans détour, et déclara ouvertement, « Je ne suis pas Christ, le Christ. » Ils lui demandèrent encore, « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Maintenant, quelqu'un pourrait poser la question, « Attendez, le Seigneur Jésus a quand même dit plus tard dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, si vous voulez l'accepter, Élie vient, certes, mais il est déjà venu. Il a donc mis les deux sous le même toit. Et si nous y regardons de plus près, dans le même chapitre du prophète Malachie, il est question de la première venue du Christ et de la préparation du chemin et aussi de la deuxième venue du Christ. Malachie 4. Mais ici, Jean dit ou répond à la question, es-tu Élie? Es-tu Élie? Il répond, non, je ne le suis pas. Pourtant, la parole de Dieu dit, avant que vienne le jour terrible et redoutable du Seigneur, je vous enverrai le prophète Élie. Malachie 4, 5 et 6. Savez-vous que le problème n'est pas que Dieu soit avec un homme et que les morts soient ressuscités, que les aveugles voient, que les boiteux marchent et que de grands miracles et signes se produisent. La détresse réside dans le fait que les gens n'ont pas accès aux paroles prophétiques, que ce qui se passe actuellement ne leur est pas révélé par l'Écriture, de l'Écriture. Ils croient tous en des révélations, mais leurs révélations évoluent dans le vide. Marc écrit, l'Évangile de Jésus-Christ a pris son commencement, comme il est écrit dans le prophète Malachie et dans le prophète Ésaïe. Nous devons être en mesure de dire l'évangile de Jésus-Christ prend fin, prend sa fin, comme il est écrit dans les prophètes, comme il est écrit dans les psaumes, comme il est écrit dans la nouvelle, comme il est écrit dans l'ancienne alliance. Mais nous devons trouver ces passages bibliques qui correspondent, et vous pouvez chercher jour et nuit, vous lirez par-dessus, à moins que vous ne soyez à l'école du royaume des cieux, à moins que vous ne soyez assis aux pieds de Jésus. Alors ce n'est pas l'un qui parle d'une chose et l'autre d'une autre, mais c'est un seul qui parle. Et ça, c'est le Seigneur de l'Église élevé, qui marche au milieu des sept cendriers d'or. Et vous savez, si quelqu'un, comme moi, il a été dit, nous aussi nous considérons Frère Branham comme un grand homme de Dieu, comme le plus grand homme de Dieu depuis les jours de Jésus-Christ. Mais depuis que nous avons entendu dire qu'il croit être le prophète qui doit venir avant le jour terrible et redoutable du Seigneur, nous ne pouvons pas la suivre. Et c'est précisément là où ces personnes ne peuvent plus suivre. C'est précisément là que commence notre chemin pour la dernière phase de ce temps prophétique dans lequel nous vivons. Que vous le croyez aujourd'hui ou non, que vous le compreniez ou non, vous verrez le jour et vous saurez que c'était la pure vérité. Je vous demande aujourd'hui, comment est-ce que le Nouveau Testament a commencé? Comment a-t-il commencé? Par l'accomplissement de la parole du prophète Ésaïe et de la parole du prophète Malachie. Mais comment a-t-elle été accomplie? Par un homme qui ressemblait déjà presque à un chameau, puisqu'il est écrit, il portait une peau de chameau. Et que pensez-vous qu'il se soit passé dans l'esprit des gens? Il pensait, eh bien, cet homme, il ressemble beaucoup à la chose dont il porte la peau. Hein, n'est-ce pas? Que croyez-vous que les gens se moquaient de cela et ne savaient pas que Dieu se révélait en toute simplicité, qu'il s'enveloppait et que sa parole avait pris forme dans le ministère d'un prophète? Et notre Seigneur parle plus tard. Que vouliez-vous voir quand vous êtes allé écoutez, Jean, vouliez-vous voir un roseau soufflé par le vent, tantôt à gauche, tantôt à droite, ou quelqu'un marchant dans un vêtement de pourpre agréable? Et le Seigneur dit, je vous le dis, de tels hommes sont dans les palais royaux. Qui avez-vous vu? Puis il le dit, si vous voulez l'accepter, c'est celui dont il est écrit. Voici que j'envoie mon messager devant moi. De quoi s'agissait-il? Le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement de la parole prophétique sous la forme d'un homme qui se présentait en toute simplicité. Les gens ont secoué la tête. Mais Dieu avait aussi ceux qui ont cru. Comment sera la fin? Comme était le début, ainsi sera la fin. Le dernier livre de la Bible est un livre prophétique. Il ne se trouve pas au début du Nouveau Testament. Il se trouve même chronologiquement à la fin du Nouveau Testament, ordonné justement. Et c'est là que nous rencontrons dans le premier verset les mots « La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné agent donc pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu a une période prophétique à la fin du temps de grâce. C'est dans cette période prophétique que tombe tout l'accomplissement de ce qui a été prédit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Pierre, ici l'homme de Dieu, le dit clairement dans le chapitre 3 de la deuxième lettre de Pierre, de Pierre chapitre 3, verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En lui, les cieux passeront avec fracas. Les éléments se dissoudront dans l'ardeur de la flamme. Et la terre se fondra dans le feu avec toutes les œuvres des hommes qui sont sur elle. Le grand jour terrible et redoutable du Seigneur arrive. Le jour qui brûlera comme une fournaise. Paul, l'homme de Dieu, il dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 1, « Pour ce qui est du temps et de l'heure, vous n'avez besoin, frères, d'aucune instruction écrite à ce sujet. » Verset 2, 1 Thessaloniciens 5, « Vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » Si nous allons ensuite dans les prophètes Malachie, dans le prophète Malachie, pour savoir de quoi ces hommes ont parlé dans le Nouveau Testament, nous lisons dans les derniers versets de l'Ancien Testament, et plus précisément au chapitre 4, verset 1, « Car sachez bien que le jour vient brûlant comme une fournaise où tous les orgueilleux et tous ceux qui agissent sans loi seront comme du chaume. Et le jour vient, et le jour qui vient les brûlera. Ainsi a parlé le Seigneur des armées. » Maintenant, Malachie 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai donné en Horeb des instructions, des ordres pour tout Israël. Le verset 5. Sachez que je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour grand et redoutable du Seigneur. Celui qui ne lit pas l'Ancien Testament pour savoir ce qu'est le jour du Seigneur peut lire le Nouveau Testament et ne le comprendra pas, car l'Ancien et le Nouveau vont ensemble. L'un et l'autre se rejoignent. L'un se fond dans l'autre. Si les frères qui ont entendu, vécu, mangé et bu avec frère Branham d'une manière aussi extraordinaire pendant tant d'années, s'ils ont été ses amis à la chasse, s'ils ont marché avec lui, s'ils ne seraient pas restés assis sur leurs oreilles, mais auraient réfléchi dans leur cœur qu'un ministère aussi énorme doit avoir un sens et un objectif. Car frère Branham pouvait faire autant et aussi peu par lui-même que vous et moi. Mais le Seigneur ne lui a-t-il pas dit, comme Jean a été envoyé, comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi seras-tu envoyé avec un message avant le retour de Christ. Donc avec un message qui précédera le retour de Christ. Tout allait bien, même avec le peuple d'Israël. Ils étaient sans péché, Dieu ne leur a rien imputé. Ils ont offert leur sacrifice, tout était parfaitement en ordre. Mais le jour et l'heure où la prophétie biblique, où la parole a pris forme, où les prophéties ont commencé à s'accomplir, Dieu a pris un nouveau départ à ce moment-là. Et celui qui a manqué ce nouveau commencement a manqué la connexion avec l'action, le travail de Jésus. Et celui qui n'a pas eu la connexion avec l'œuvre de Jésus a continué à la manquer. Jusque-là, le peuple d'Israël était dans son droit. Il avait son culte comme cela avait été prescrit à Moïse. Mais ensuite, une nouvelle période a commencé. Frères et sœurs, chers amis, nous ne sommes pas ici pour critiquer. Et si je le fais, c'est sur moi. C'est adressé à moi et toi adressé à toi. Je frappe ma poitrine et tu frappes la tienne. Mais je veux vraiment le dire clairement aujourd'hui, même si je suis un peu retenu. Celui qui n'a reconnu que l'action évangélique de Dieu dans le ministère de frère Branham, où tout s'est réjoui et a poussé des cris de joie, où les assemblées du plein évangile ont collaboré aux plus grandes campagnes et y ont naturellement trouvé leur avantage. Rien n'est encore fait avec cela. Ce n'est que le premier pas vers ce qui va. C'était que le premier pas vers ce qui devait suivre. Il y a beaucoup d'évangélistes où n'y en avait-il qu'un seul. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui et on ne peut pas le nier. Beaucoup, semble-t-il, eux agissent en grande bénédiction. Certaines histoires sont peut-être un peu exagérées. Elles ont été transmises en partie par oui dire et sont encore arrangées, mais cela n'a pas d'importance. Le critère n'est pas l'évangélisation. Le critère est le moment de l'accomplissement de la parole prophétique pour que Dieu lui-même puisse déterminer si nous voulons avancer avec lui de mémoire ou de l'intérieur. C'est en effet une très belle chose, mais seulement à l'extérieur. Quand on peut s'asseoir dans une assemblée et que les gens, ils sont tous comme s'ils étaient déjà en quelque sorte un peu plus élevés. Hein? Et si l'on pose juste une question un peu polie, as-tu déjà entendu parler de ce que frère Branham a fait? Ce sont justement les mêmes personnes qui ont levé les mains auparavant, qui ont chanté en langue nouvelle et anciennes, qui ont entonné la louange. Ce sont les mêmes personnes-là qui tombent des nues et qui s'excitent. Et on ne les reconnaît plus. On se dit que ça ne peut pas être le même frère. Ça ne peut pas être la même sœur. Il y a quelques instants, ils étaient encore bien heureux et chantaient tous sur commande en s'agitant dans tous les sens et soudain, même leur apparence extérieure change. Le visage rayonnant change comme le visage de Caïn. Lui, il y eut des ténèbres, c'est écrit. Son visage s'est obscurci, c'est écrit. Pourquoi s'est-il assombri? Parce qu'il a soudain compris que Dieu avait porté un regard miséricordieux sur le sacrifice d'Abel. Que vous me croyez ou non aujourd'hui, j'ai vu avec mes propres yeux, avec lesquels je regarde maintenant, des personnes devant moi se transformer d'un instant à l'autre. Je changeais d'un instant à l'autre. D'une personne agréable. Même l'image extérieure du regard les traits du visage et tout change en un seul instant. En un seul instant. Les beaux scribes qui pouvaient ainsi bénir les enfants, qui ne faisaient que rendre justice à tout le monde, pouvaient soudain se comporter tout autrement lorsqu'ils étaient confrontés à Jésus. Frères, sœurs, chers amis, comprenons aujourd'hui que l'Évangile avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait un début prophétique en trouvant son accomplissement selon la parole de Dieu. Ésaïe 40, verset 3 et 4, verset 1 et 2. Malachie 3, verset 1 et 2. C'est ainsi que l'Évangile a fait son commencement. L'Évangile de Jésus-Christ prend maintenant aussi une fin prophétique avec les prophètes que Dieu a envoyés et avec l'Église qui est mise à part par le message prophétique. Quand il y a de l'évangélisation, tout le monde vient. Récemment, il y avait des gens dans notre ville. Ils ont fait une évangélisation et 13 communautés religieuses et communautés religieuses libres et communautés, tous ont participé. On ne s'est même pas demandé quoi et comment on a participé. Mais quand le message prophétique arrive, ils ont tous participé, mais quand le message prophétique arrive, les stores s'abaissent au milieu de la journée. Pour quelle raison? Parce que les gens ont été laissés dans l'ignorance du plan de salut de Dieu. Cela devient de jour en jour plus grand et plus important pour moi. Et je veux devenir de plus en plus reconnaissant pour la révélation de la parole de Dieu pour ce temps. À quoi me servirait de savoir tout cela si je n'avais pas reçu de Dieu ce que j'ai besoin de savoir, ce que j'ai besoin de savoir maintenant et ce qu'il fait maintenant. Emportez cela chez vous après cette réunion. Si quelqu'un vous interpelle, dites simplement la conclusion, l'achèvement que Dieu fait avec son Église n'est pas celle qui se trouve dans les programmes des hommes, de grandes choses ici et de grandes choses là. Mais l'achèvement aura lieu selon la parole prophétique, selon ce que le Seigneur lui-même a dit. Comprenez-vous maintenant que nous sommes effectivement assis à l'école du royaume des cieux depuis un temps considérable et que le Seigneur nous a instruits et qu'il peut aujourd'hui, légitimement, demander « Avez-vous compris tout cela ?» Si le Seigneur demanderait ici aujourd'hui « Avez-vous compris que la fin doit être une fin prophétique ?» S'il demandait « Avez-vous compris quel était le ministère de votre génération ?» Comment pouvons-nous le comprendre? Nous pouvons le comprendre en ce que le Seigneur lui-même nous ouvre la compréhension pour les Écritures. Et je vous le dis, quand cette période d'enseignement sera terminée, nous pourrons dire exactement comme les disciples autrefois, quand il a demandé, avez-vous compris tout cela? Et ils ont répondu, oui, Seigneur, alléluia, as-tu compris? Est-ce que j'ai compris? Oui, Seigneur, tu me l'as révélé. Par ton Saint-Esprit, tu nous as instruits en ce temps. Nous penserions, et c'est là ma conclusion, que l'école du royaume des cieux devrait maintenant se trouver quelque part en haut dans les cieux. Non. Le royaume des cieux s'est rapproché. La première phrase que Jean, cet homme en qui la prophétie biblique s'est accomplie, a dit en premier lieu, « Répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Notre Seigneur a utilisé presque la même formule. Et le royaume des cieux ne vient pas avec des... avec grande apparence extérieure. Il est intérieur en toi et en moi. Nous avons été transférés dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante par la grâce de notre Seigneur. Son sang couvre mes fautes. Il me rend lumineux et pur, toi aussi. Tu es racheté, accepte-le dans la foi. Et le Seigneur nous gardera à son école aussi longtemps qu'il le faudra. Et j'en suis reconnaissant. L'école du royaume des cieux est pour tous, pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour les grands et les petits. Ensemble, nous sommes assis sous l'enseignement puissant et prophétique du message de la fin des temps que Dieu nous a donné dans ce temps. Nous sommes ainsi. Nous nous distinguons ainsi de tous les autres et ne sommes pas non plus reconnus par eux. Mais quelqu'un nous connaît et nous a appelés. Êtes-vous heureux? Êtes-vous heureux aujourd'hui que Dieu nous ait fait la grâce en sa présence, dans son royaume, d'entendre sa parole de sa bouche, non pas interprétée mais révélée? La parole n'a pas seulement été entendue, nous l'avons aussi vue. C'est pourquoi Jean dit, ce que nous avons entendu et vu. La parole de Dieu n'est pas seulement à entendre. La parole de Dieu est aussi à voir, à voir. Elle se voit en toi et en moi. Oh, la parole de la croix, toute la parole veut devenir visible dans ta vie et dans la mienne. Homme malade qui est ici aujourd'hui n'entend pas seulement la parole de la guérison. Que la parole soit envoyée pour te guérir. Toi qui n'es pas encore sauvé, reçois, accueille, accepte la parole de ton salut et tu seras sauvé. Invoque le Seigneur et il te bénira de la richesse de sa grâce. Amen. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, ensemble, nous venons maintenant devant ta sainte face dans la foi totale et la confiance que tu réponds maintenant, que tu sauves, que tu pardonne, que tu libères et que tu guéris. Seigneur, en ton précieux nom de Jésus, que la puissance de Dieu se manifeste sur les individus et que ta parole soit confirmée. Seigneur bien-aimé, tu nous as fait connaître le temps et l'heure où nous vivons. Tu nous a parlé comme un ami parle à son ami et tu nous as fait connaître les mystères du royaume des cieux. Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera, ne déçois pas ton peuple mais réponds maintenant et confirme puissamment ta parole à quiconque croit de tout son cœur et qu'il arrive au nom du Seigneur, que nous ne nous contentions pas d'entendre et d'écouter la parole de Dieu, mais que nous puissions la voir et en faire l'expérience personnelle de ce que nous écoutons, qu'elle devienne réalité devant nous dans l'esprit, l'âme et le corps. Je te remercie, Seigneur, pour l'école dans laquelle tu nous as mis, Sauveur. Exerce ta patience et ta longanimité envers chacun d'entre nous, afin que personne ne soit laissé en arrière. Sauveur, tu aides tout le monde de la même manière. Je te remercie pour cela. Merci d'avoir envoyé ton serviteur et prophète. Merci de ce qu'avec lui et son ministère, un âge prophétique a été inauguré, introduit. Merci de nous permettre d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Je te remercie pour chaque frère, pour chaque sœur, pour tous ceux que tu as appelés à sortir et que tu as élus et choisis. Que ta bénédiction et ta grâce soient avec nous tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alléluia. Bénis sont les yeux qui voient et les oreilles qui entendent, car beaucoup auraient voulu voir et entendre ce qui nous a été accordé et n'ont pas pu le voir ni l'entendre. Mon Dieu, je sais que tu es ici. Ta sainteté remplit cette salle. Alléluia. Tout est possible. Louange et merci au Seigneur. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre bouche. Et quand vous dites, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te remercie. Seigneur, tu m'as parlé. Alléluia. Tout ce qui vient dans votre cœur, exprimez-le. Apportez l'honneur à Dieu. Alléluia. Rendez gloire à Dieu. Alléluia. Car Dieu s'est élevé de sa demeure sainte. Et que les habitants de la terre tremblent. Alléluia. Dieu a fait de grandes choses lors de l'Exode sous Moïse. Dieu a fait de grandes choses lors de l'entrée sous Josué. Il est notre Dieu. Alléluia. Lui qui a fait de grandes choses au commencement de la Nouvelle Alliance et tout était l'accomplissement des Écritures. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu est l'accomplissement des Écritures. Alléluia. Afin que les Écritures soient accomplies et que des fleuves d'eau vive coulent, comme dit l'Écriture. Afin que l'Écriture soit accomplie, que des fleuves d'eau vive coulent. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, ni des interprétations, mais la révélation de la parole prophétique qui brille comme une lumière éclatante dans un lieu obscur. Alléluia. La lumière au temps du soir. Oh, remerciez le Seigneur. Glorifiez son nom. Si les montagnes ont sauté, si les collines ont tressailli, qu'en sera-t-il du peuple de Dieu? Le salut nous est parvenu. Aujourd'hui, à 7 heures, le salut t'est parvenu. Alléluia. Louange et reconnaissance, gloire et adoration à toi, à l'agneau qui a ouvert les seaux en notre temps. Alléluia. Toi, agneau de Dieu. Alléluia. À toi, le roi, alléluia, à toi le Seigneur, soit apportée la reconnaissance, la reconnaissance. Loué soit ton saint nom, bénis tout le monde et sois avec nous tous. Alléluia, tu es digne et nous voulons te le manifester en le chantant et t'en t'honorant ainsi. Alléluia, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir louange et honneur, gloire et adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir louange et honneur, gloire et adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Amen.